Josette Sédoux.
Bonsoir. À Tramelan, deux endroits du village ont été baptisés hier, des ruelles qui n'avaient pas encore de nom, qui en ont reçu un grâce à la créativité et au travail de recherche de Raoul Voirol, enseignant à la retraite, qui a lui-même proposé ses noms de rues sur la base d'anecdotes historiques. Il vernissait du même coup son livre sur l'histoire des lieux dits Tramelan, donc c'est-à-dire tous les noms de ruelles, des places, des champs, des combes, etc. Avec la même logique que d'autres ont baptisé des rues grâce à l'histoire, Raoul Voirol nous explique la démarche pour le nom de ces traverses.
Oui, alors il faut peut-être dire ceci, que les traverses de Tramelan, c'est ces passages piétonniers qui sont orientés nord-sud et qui relient les différentes rues du village qui, elles, sont orientées est et ouest. Et une partie de ces traverses, il y en a 70 environ sur l'ensemble du territoire de Tramelan, eh bien, certaines de ces traverses ont été baptisées. Et les deux dernières baptisées ce jour de dédicace, c'est la traverse du 10 juillet 1839 et la traverse des Bœufs de Pâques.
Comment ça se fait qu'elle porte ces noms?
Alors, pour ce qui est de la traverse du 10 juillet 1839, c'est le rappel de l'incendie du centre du village de Tramelan-dessus en 1839, incendie qui avait détruit une dizaine de maisons autour du temple actuel. Quant à la traverse des Bœufs de Pâques, c'est une bizarrerie locale. C'était une tradition qu'un des bouchers de la place, plus exactement M. André Vu avec son frère, dont je n'ai pas retrouvé son prénom, avait pour tradition, dans les environs de la fête de Pâques, chaque année, de faire défiler des bœufs qui, avant d'aller à l'abattoir, passaient dans les rues du village. Et on en trouve encore une photo historique qui relate cet événement ou cette tradition, et on a baptisé cette traverse pour rappeler cette tradition locale.
Le vernissage du livre a eu lieu hier à Tramelan, en même temps que le baptême des deux passages piétonniers. Et puis je rappelle le nom du livre, Tramelan, c'est lieu dit. L'aérodrome de Courtelary accueillera bientôt un nouveau hangar pour ses planeurs de collection. Le projet émane de la Fondation pour l'histoire du vol à voile. Les plans doivent encore recevoir l'aval de différents offices, dont celui de l'aviation civile et de l'environnement. Dans ces 500 mètres carrés, 7 planeurs en état de vol pourront être conservés. Julien Hoffmeyer est président du groupe de vol à voile de Courtelary et membre de la Fondation pour l'histoire du vol à voile. Le hangar servira à stocker ces planeurs de collection, pas seulement pour être admirés au sol, mais ils sont aussi voués à être dans le ciel, selon Julien Hoffmeyer qu'on écoute.
Tous ces planeurs sont maintenus en état de vol, donc ils sont voués à voler ici sur la place les jours de beau temps. Et évidemment, comme on aura un écrin en quelque sorte qui permettra de les garder montés, visibles, eh bien, l'idée c'est de permettre aux gens qui seraient intéressés de venir les regarder et puis de venir observer de près ces belles machines, parce que c'est de la belle ouvrage.
Et qu'est-ce qui est spécial en fait? À quoi on voit que c'est des objets de collection? Vous pouvez nous décrire un peu?
Bien, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans une voiture ancienne, par exemple, ou sur un bateau ancien. On retrouve un peu le même esprit. Hein, on a cette espèce de voyage dans le temps qui se fait automatiquement en montant à bord ou juste en mettant le nez dessus. C'est des choses qui ont été entièrement fabriquées à la main. Donc il n'y a pas de machine quasiment qui intervienne dans la construction de ces planeurs, alors, hormis une scie et puis peut-être une ponceuse. Mais pour se rendre compte quand même du travail que ça représente, de faire finalement d'un tas de bois quelque chose qui vole, qui est capable de rester toute une après-midi dans le ciel sans avoir besoin d'un moteur, moi je trouve ça fantastique.
Si le processus administratif doit encore prendre 6 mois, le hangar pourrait voir le jour au mieux au début de l'année 2027. Les lieux seront accessibles au public durant les heures où les pilotes sont présents pour venir admirer les planeurs. C'est le repas de boîte pour ceux qui n'ont pas de travail. Ce souper d'avant-Noël se tient le 17 décembre prochain à Neuchâtel. Lancée sur les réseaux sociaux, l'initiative a vite reçu de nombreux commentaires positifs, mais aussi des dons. Donc les vins sont offerts lors de cette soirée, alors que près de 10 000 francs de dons ont été récoltés pour la tombola gratuite. Un DJ et un animateur se sont également proposés pour accompagner les organisateurs. À l'origine du projet, Willy Fontin ne s'attendait pas à un tel engouement. L'idée lui est venu assez naturellement.
Étant aussi en phase de transition et au chômage, je suis un peu toutes les étapes de cette transition qui ne sont pas faciles. Et je me suis rendu compte dans ces périodes de fête, justement, qu'autour de nous, tous les gens qui ont un emploi ont des soupers de boîte. Je me suis dit, mais tiens, ça serait sympa aussi de le faire nous-mêmes. Pourquoi on n'a pas le droit? Et puis voilà, c'est parti comme ça, en fait.
Ce côté social, il vous manquerait finalement s'il n'y avait pas de souper de Noël pour vous cette année?
Alors, ce n'est pas forcément qu'il me manquerait, parce que j'ai déjà travaillé dans des entreprises où on n'a pas fait de souper de boîte, et puis ce n'était pas si grave. Mais je trouvais que c'était une belle opportunité, de, justement, quand on est un petit peu dans ces phases de transition, où on est un petit peu seul, de pouvoir se retrouver entre nous. Et pourquoi pas de partager des difficultés ou des succès aussi, parce qu'on a des fois on a des succès, des entretiens, ou qu'est-ce qu'on met en œuvre pour réussir à retrouver un emploi. Et je me suis dit, ça serait une belle façon de se rencontrer et de penser à autre chose aussi. Pas seulement aussi au mécanisme de devoir trouver un emploi. Là, on ne sera pas confronté à des gens qui peuvent théoriquement nous engager, puisqu'on est tous dans la même situation, mais on peut partager.
Des propos recueillis par Stéphanie Wenker. Des personnes de Lausanne se sont déjà inscrites pour ce souper de boîte pour chômeurs à Neuchâtel. D'ailleurs, tout le monde y est le bienvenu. Le prix est de 35 francs pour la soirée. C'est devenu une attraction à part entière au marché de Noël de Saint-Ursanne. Les reproductions des rues de la cité médiévale en miniature attirent de nombreux curieux. Ces maquettes sont fabriquées par Chris Burquet et exposées sur plusieurs fontaines lors de la période des fêtes. L'Ursinienne les fabrique bénévolement de A à Z, ce qui nécessite un engagement conséquent, comme nous explique la créatrice.
Ça demande énormément d'heures de travail. Je ne les compte plus. En général, je commence juste après les vacances d'été. Parce que je peux profiter de les faire sur la terrasse. Parce que ça fait beaucoup de chenilles de bois. Donc je profite de faire les découpes des fenêtres, des portes, en général au mois d'août.
Pour reproduire ces maisons, vous basez sur les rues telles qu'elles sont aujourd'hui. Ou comment vous faites ?
En fait, ces maisons, on peut distinguer un petit peu qu'il y a des garages, puis maintenant il y a une fenêtre, mais c'est dû au plan de 1920. Donc maintenant, on est en 2025, donc il y a eu de la modernité, les gens ont enlevé le garage, ils ont rajouté des fenêtres, mais de base, elles datent de 1920.
Les maquettes de Christ Burquet sont à découvrir jusqu'au début du mois de janvier. Le marché de Noël vient, lui, de se terminer. Les organisateurs tirent un bilan positif de cette 27e édition de la manifestation à Saint-Ursanne. Les cas de tuberculose ont progressé en Suisse. Une hausse de 26% a été enregistrée cette année avec 475 cas, soit une centaine de plus que les deux années précédentes. L'Office fédéral de la santé publique estime que la hausse est probablement due à l'arrivée de personnes originaires de régions du monde où cette maladie est plus répandue. La transmission de la tuberculose se fait surtout par voie aérienne. La maladie peut se traiter avec la prise d'antibiotiques spéciaux pendant plusieurs mois. Et au Louvre, à Paris, des centaines d'ouvrages endommagés par une fuite d'eau. La bibliothèque des antiquités égyptiennes a été atteinte par une fuite d'eau. Entre 300 et 400 ouvrages ont été touchés, a détaillé l'administrateur du musée, indiquant qu'il s'agissait de revues d'égyptologie et une documentation scientifique utilisée par les chercheurs. Aucun ouvrage patrimonial n'est concerné par ce dégât, précisant à ce stade qu'il n'y a pas de perte irrémédiable et définitive sur ces collections. Et puis un mot de sport, Camille Rast une nouvelle fois en embuscade à Mont-Tremblant. La Valaisanne a pris le cinquième rang de la première manche du géant de Coupe du Monde de ski alpin cet après-midi. Elle pointe à 65 centièmes de la leader néo-zélandaise Alice Robinson qui s'est déjà imposée hier. Le podium est complété par l'Autrichienne Julia Scheib et l'Américaine Nina O'Brien. Les autres Suissesses sont plus en retrait. Oldi Wendener se classe 17e devant Sue Piller 20e et Vanessa Casper 28e. Le départ de la seconde manche est prévu à 19h. Et du côté des hommes, les skieurs suisses vont chercher à jouer les avant-postes aux États-Unis. Marco Odermatt, Loïc Meillard et les autres Helvètes ont dévalé la piste de Beaver Creek ce soir à l'occasion du géant de Coupe du Monde de ski alpin qui vient de démarrer. Et la Formule 1 tient son nouveau champion du monde. Lando Norris a été sacré cet après-midi après une troisième place arrachée au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le pilote britannique conserve ainsi son avance au général pour devancer de justesse le néerlandais Max Verstappen. Le récit d'une dernière course durant laquelle tout était encore possible. Arthur Vermeau.
Le monde de la Formule 1 retenait son souffle ce dimanche après-midi en marge du Grand Prix d'Abu Dhabi. Après l'hégémonie Max Verstappen, trois pilotes dont le néerlandais étaient encore en lice pour décrocher le titre de champion du monde. Lando Norris endossait le rôle de favori grâce à son avance au général. Il n'a cependant pas commencé la course de la meilleure des manières en cédant rapidement sa deuxième place à son coéquipier australien Oscar Piastri. Mais le Britannique a su défendre son podium sans problème. Il avait même encore un joker en poche avec la présence l'avance de l'autre McLaren devant lui. Finalement, deux petits points permettent à Lando Norris de conserver son avance au général. Il décroche le Graal de la F1 pour la première fois de sa carrière et met fin à la domination de Max Verstappen qui restait sur 4 titres consécutifs.